France Inter.
Sans plus attendre, c'est le journal avec Alexandra Dubucheron. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir à tous. Un 8 mars de grève féministe et de manifestation aujourd'hui dans le monde et un peu partout en France pour les droits des femmes. On sera dans le cortège parisien où le slogan « Mon corps, mes choix, mes droits » n'a pas pris une ride, vous l'entendrez. Malgré l'entrée officielle de l'IVG dans la Constitution, c'était aujourd'hui la cérémonie de scellement Place Vendôme à Paris avec une Marseillaise spéciale Catherine Ringer. On l'entend. Dans l'actualité encore, la patronne de Fayard licenciée ce soir, Isabelle Saporta, emportée par la vague Bolloré. L'ONU pas convaincue par le projet de corridor maritime humanitaire pour Gaza. Et puis on reviendra sur la mort d'Akira Toriyama, qui n'était pas seulement le créateur de Dragon Ball.
France Inter.
Des milliers de femmes, surtout, mais d'hommes aussi, ont défilé aujourd'hui en France pour les droits des femmes à l'occasion de la journée internationale dédiée des cortèges du 8 mars dans 160 villes et une journée de grève aussi à l'appel des syndicats pour réclamer l'égalité femmes-hommes dans le domaine professionnel. Les manifestants et les associations féministes ont évidemment salué l'entrée officielle de l'IVG dans la Constitution, mais le combat ne s'arrête pas là. À Paris, elles l'ont expliqué à Laurent Kramer.
Faire changer les mentalités et faire appliquer le droit bien au-delà de l'IVG, Louise et Maya dénoncent toutes les violences faites aux femmes.
Toutes ces violences qu'on dénonce aujourd'hui, elles n'appartiennent pas à une époque qui est révolue. C'est encore tellement présent que le nombre de personnes présentes aujourd'hui montre ça aussi. L'IVG dans la Constitution, c'est génial, mais à un moment donné, faut réellement que les choses changent et qu'elles n'ont pas encore totalement changé.
Violence sexuelle, féminicide ou tout simplement sexisme au travail. Léa, 25 ans, est venue manifester avec ses collègues.
Oui, il y a encore du boulot. Là, je suis avec une collègue aujourd'hui et c'était important de venir aussi entre collègues parce que nous, on le voit au quotidien, ce que c'est que d'être une femme dans le monde du travail et... On a toutes des petites anecdotes sur des moments hyper sexistes qu'on a vécu dans ce milieu-là, donc c'est pas gagné encore.
Mais il y a 55 ans, les slogans étaient les mêmes, rappelle Christiane.
Je me suis souvenue, quand la première fois que je me suis syndiquée, dans les années 69, on criait « travail égal, salaire égal ». On en est encore là ? C'est dingue !
À la CGT, la secrétaire générale Sophie Binet demande que des sanctions soient désormais appliquées pour les entreprises qui n'appliquent pas l'égalité salariale entre les hommes et les femmes.
La CGT qui annonce 100 000 personnes à Paris, la préfecture 28 000, où une brève bousculade a opposé des pro-palestiniens et des pro-Israël. La manifestation s'est dispersée dans le calme vers 20 heures. Il y avait aussi 2 500 personnes à Bordeaux, 1 000 000 de manifestants à Lille, où les locaux du planning familial ont été tagués. À La Roche-sur-Yon, c'est la statue de Simone Veil qui a été vandalisée par des anti-IVG, car cette journée a aussi consacré l'entrée de la liberté d'avorter dans la Constitution. Le sceau a été apposé par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, lors d'une cérémonie publique à Paris. Cérémonie marquée par une Marseillaise revisitée par la chanteuse Catherine Ringer.
Aux armes, citoyens, citoyennes, formons nos bataillons, marchons et chantons cette loi.
La star d'Erita Mitsuko, qui a d'ailleurs fait beaucoup parler après cette prestation, Emmanuel Macron lui a fait un baise-main. Elle a visiblement voulu écourter cet échange avec le président de la République. La vidéo tourne en boucle sur les réseaux. Dans l'actualité aussi, Jonathan Boyle est condamné à 30 ans de réclusion ce soir par la cour d'assises du Pas-de-Calais pour le meurtre de son ex-compagne. Il l'avait brûlée vive en 2020 près de Béthune en aspergeant sa voiture d'essence. Un drame qui fait écho à celui qu'a vécu Shahinès Daoud quelques mois plus tard, en 2021, cette fois à Mérignac, près de Bordeaux. Cette mère de famille de 31 ans avait été brûlée vive en pleine rue. Son ex-mari sera bien jugé pour assassinat, c'est ce qu'indique le parquet de Bordeaux. Chez Fayard, c'est donc la fin d'un bras de fer qui durait depuis des semaines. La patronne de la maison d'édition Isabelle Saporta va être licenciée. La direction d'Hachette Livre, propriété depuis peu de Vincent Bolloré, lui demandait de céder une partie de ses prérogatives à Lise Boël. Ilana Mor-Youssef, Lise Boël, c'est l'éditrice d'auteurs très à droite comme Éric Zemmour.
Tu signes ou tu ne signes pas ? C'est par ces mots qu'Isabelle Saporta a été reçue cet après-midi dans le bureau de Stéphanie Ferrand, la directrice déléguée du groupe Hachette. Depuis bientôt 2 mois, la PDG de Fayard est sous pression de sa hiérarchie. On lui demandait de céder une licence qui aurait permis à Lise Boël, l'éditrice historique d'Éric Zemmour et probablement bientôt de Jordan Bardella, de publier des essais hors de son contrôle et en utilisant le label prestigieux de Fayard. Isabelle Saporta s'y est toujours refusée, même en échange de la mirifique augmentation de salaire qu'on lui a proposée en contrepartie. Tu signes ou tu ne signes pas ? À côté des documents qu'on lui demandait de paraffer, il y avait, déjà prête, une convocation à un entretien préalable de licenciement. L'issue était prévisible, nul ne s'oppose impunément à cet actionnaire. Depuis janvier, Hachette est passée sous contrôle de Vivendi, donc de Vincent Bolloré. Le premier acte de la bolorisation du groupe Hachette vient de s'achever. Il laisse désemparés et anxieux de très nombreux salariés de Fayard et d'autres maisons du groupe.
Explication signée Ilana Mohr-Youssef, spécialiste culture à France Inter. Après le port provisoire promis par Joe Biden à Gaza, l'Union européenne et les États-Unis ont annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un corridor maritime entre Chypre et l'enclave palestinienne pour acheminer plus d'aide humanitaire. Dès ce dimanche, espère même Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Mais cette décision est trop tardive, regrette le coordinateur humanitaire de l'ONU à Jérusalem, Andrea De Dominico.
Déjà, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a presque 500 000 de personnes qui sont à côté d'une situation de famine. Et donc, 2 mois, c'est pas un temps acceptable pour arrêter cette trajectoire concernante par rapport à la situation nutritionnelle de la population de Gaza. Et de toute façon, même quand il sera ouvert, on aura quand même le problème de la distribution interne qui reste tout à résoudre, sachant qu'il n'y a pas de route. Toutes les routes ont été détruites et donc c'est toujours compliqué les mouvements au sein de la bande de Gaza.
Est-ce qu'il faudrait ouvrir un accès au nord, notamment pour rapprocher les camions des besoins ?
Absolument, c'est quelque chose que nous on demande depuis des semaines, des mois. Plusieurs points d'entrée pour atteindre la population qui est en état de besoin.
Le coordinateur humanitaire de l'ONU à Jérusalem avec Étienne Monin. Les négociations pour une trêve à Gaza, elles, doivent reprendre la semaine prochaine. Le Hamas ne fera aucun compromis sur ses exigences, prévient ce soir la branche armée du mouvement islamiste. À Istanbul, Recep Tayyip Erdogan se dit prêt à accueillir un sommet sur la paix entre la Russie et l'Ukraine. Le président turc a reçu aujourd'hui son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Et puis, pour la première fois, il a aussi évoqué tout à l'heure son départ du pouvoir en Turquie. Il assure que les municipales du 31 mars seront ses dernières élections. Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle ce soir à un cessez-le-feu immédiat au Soudan avant le Ramadan. Résolution portée par le Royaume-Uni, adoptée par 14 voix pour. Les Russes se sont abstenus. Les combats font rage depuis près d'un an entre l'armée et les paramilitaires soudanais. En Autriche, la bourde de la télévision publique ORF et les excuses d'un chef cuisinier. Ce dernier a fait frire en pleine émission à un gardon galant, une espèce locale de poisson protégé qui vit dans un parc national. Il assure avoir confondu avec une autre espèce. L'association des pêcheurs de la région a porté plainte. Il a popularisé le manga en Europe à la fin des années 80. Le japonais Akira Toriyama est décédé le 1er mars dernier à 68 ans. On l'a appris aujourd'hui, héros de toute une génération, père de Dragon Ball, un manga né en 1984, écoulé à plus de 300 millions d'exemplaires. Mais il était en fait bien plus que ça. Il s'est illustré dans d'autres domaines. Les jeux vidéo, par exemple, les célèbres Dragon Quest, rappelle le journaliste spécialisé Daniel Andreev.
Le génie Toriyama, il est dans le design des monstres. Mais le propre de ces monstres-là, c'est qu'il regarde toujours le joueur droit devant lui, droit dans les yeux. Toriyama est quelqu'un qui savait, en une illustration, faire une puissance d'évocation assez grande, que ce soit l'aventure, mais que ce soit aussi le voyage. Enfin, c'est toujours une invitation au voyage dans ces illustrations de Dragon Quest. Un héros qui part à l'aventure, mais on voit tout de suite, on voit dans son regard, on voit dans le décor derrière que il a traversé des épreuves. Comparé à Dragon Ball, il y a une de ses qualités, c'est que ça nous rappelait à quel point c'était un grand illustrateur avant d'être un raconteur d'histoire. Je pense que c'était un génie de l'illustration, c'est un génie pictural. Les illustrations qu'il a faites, je pense que c'est parmi les plus belles choses qu'on ait faites dans un jeu vidéo tout court.
Le journaliste Daniel Andreev, auteur de la légende de Dragon Quest avec Steven Gouayer. Si vous l'avez manqué, un téléphone sonne spécial. Akira Toriyama est à réécouter sur le site d'Inter avec Claire Servajan et Frédéric Sigrist notamment. En Ligue 1 de football, Nice n'avance plus, battu à domicile ce soir par Montpellier 2-1 en ouverture de la 25e journée. Le sport, c'est aussi la Formule 1. Le néerlandais Max Verstappen qui partira en pole position demain du Grand Prix d'Arabie Saoudite. La météo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Les prévisions sont signées Elodie Calac de Météo France.
Attention aux pluies sur le sud-est, petite accalmie cette nuit, mais un nouvel épisode est attendu demain. Le matin, des pluies circuleront sur l'ouest et en Méditerranée. Elles se décaleront vers la région parisienne et la Bourgogne l'après-midi. Sur le sud-est, le vent sera fort, les pluies très marquées, notamment sur les Cévennes, mais aussi vers la Côte d'Azur l'après-midi jusqu'à dimanche matin. Une vigilance orange a été déclenchée. On attend de forts cumuls de pluie, de bonnes quantités de neige, dès 1200 mètres avec un risque d'avalanche important. Sur le littoral, de fortes vagues. Pour avoir du soleil, direction le nord de la Seine et le nord-est le matin, puis quelques éclairs sur l'ouest l'après-midi, mais avec des averses. Les températures ne changeront pas beaucoup, 10 à 17 degrés attendus. Dimanche, un ciel plus changeant s'installera avec des averses, surtout sur la Nouvelle-Aquitaine et de la basse vallée du Rhône à la Côte d'Azur.
Merci Elodie Calac, 23h11 sur Inter.